Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Marc Lopez, directeur général du Raccord en santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, la dépression postpartum au masculin. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres, son sujet, vivre avec l'âgisme. On commence en chanson avec Plein de bisous de Lewis Hoffman avec Mélina Leblanc. Bienvenue à Folie douce.
Vous êtes à l'écoute de Folie douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale.
J'accueille maintenant mon invité, Marc Lopez. Bonjour Marc.
Bonjour Yvan.
Bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Bien, ça nous fait plaisir. Tu es directeur général du Raccord en santé mentale, le réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'île de Montréal. On va le dire une fois au long.
Oui.
Mais bien connu sous le nom du Raccord depuis des années, d'ailleurs. Le Raccord existe depuis longtemps.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça se limite à Raccord la plupart du temps.
Là.
C'est
ouais,
comme
ouais.
ça qu'on nous nomme.
C'est ça. Puis on est très impliqués au niveau du Raccord dans la société montréalaise, au niveau des organismes communautaires, spécialement au niveau de la santé mentale. Pourrais-tu quand même nous définir ce que c'est le Raccord en santé mentale?
Ben, comme l'a dit, au fait, le titre même, là, le réseau alternatif des organismes communautaires en santé mentale de l'île de Montréal, au fait, c'est un regroupement de tous les organismes. Cet organisme-là a été créé, au fait, en 1985,
ouais.
justement pour les représenter.
Ouais.
Représenter au niveau politique, notamment, auprès des bailleurs de fonds, mais principalement, au fait, avec le programme des subventions aux organismes communautaires,
ouais.
le bailleur de fonds principal, au fait, pour nos organismes.
Le fameux PESOC.
Le
là,
fameux
qui,
PESOC,
qui...
exactement.
Mais le raccord, c'est ça, existe donc depuis les années 80, parce qu'on sait que dans les années 80, c'est essentiellement là, je pense que beaucoup d'organismes sont nés, en fait, sont devenus présents dans la vie montréalaise, en fait, des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou qui ont besoin de services, en fait, au sujet de la santé mentale.
Effectivement, la grande majorité des organismes, au fait, a vu le jour pendant le processus de désinstitutionnalisation.
Ouais.
En fait, donc, quand les hôpitaux psychiatriques ont commencé, au fait, à fermer des lits et retourner les gens, au fait, dans la communauté. À ce moment-là, il y a différents organismes qui ont vu le jour, principalement, au fait, dans les années 80 et 90. Il y en a quand même qui existent depuis les années 50. Mais la grande majorité, au fait, se sont constitués, ont été créés à la source par la communauté elle-même autour des années 80 et 90. Il y en a eu encore pendant la période des années 2000, mais le gros noyau, on va dire le 70% pratiquement, là, j'ai pas tous les chiffres en tête, là, parce qu'on regroupe quand même plus d'une centaine d'organismes sur l'île de Montréal, spécifiquement en santé mentale, principalement financés par les subventions, au fait, gouvernementales, durant cette période-là.
Ouais. Et qu'est-ce qui est l'intérêt aussi? Pourquoi c'est important, disons, d'avoir un regroupement? Tu sais, bien sûr, c'est de représenter, mais est-ce que il y a eu une volonté à un certain moment de dire, on peut pas être seul, on peut pas être chacun seul, bon, il faut qu'on ait une certaine force de frappe, par exemple?
Ben effectivement, puis c'est tout l'objectif au fait du mot réseau. L'objectif, c'est vraiment de constituer un noyau très solide d'organismes pour s'entraider et se soutenir dans l'accompagnement qui est offert au fait aux personnes qui présentent des troubles de santé mentale, mais pas uniquement. On parle principalement au fait dans les organismes communautaires d'enjeux en santé mentale. On veut pas médicaliser trop le terme.
Ouais.
Donc c'est principalement des gens qui sont confrontés à une réalité en lien avec des enjeux en santé mentale qui sont, au fait, soutenus par ces organismes-là. Et là, au fait, d'où la pertinence et l'importance de se coordonner ensemble, de constituer des liens très forts pour s'assurer, au fait, que toute personne qui n'a pas le soutien nécessaire, au fait, dans le réseau de la santé publique, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est que bien souvent, il y a des laissés-pour-compte et que les organismes sont là aussi pour accompagner et soutenir ces personnes-là.
Ouais.
Donc, ce sont quand même des situations relativement délicates auxquelles sont confrontés nos organismes, et d'où la nécessité, au fait, de se regrouper autour d'un objectif, de plusieurs objectifs communs. Il faut dire aussi qu'au niveau des organismes, là, l'éventail est très, très large. Hein. Une centaine d'organismes, là, ça touche autant les organismes de centre de jour, que de l'hébergement, que du suivi communautaire, de l'employabilité également, de la proche aidance, de la père aidance, et j'en passe. Je m'excuse pour ceux que j'aurais pas nommés, mais la liste est fort, fort.
Il y a un éventail là, d'activités variées. Si on parlait de toi, parce que ça fait longtemps que tu gravites dans le domaine communautaire ou de la santé mentale, parce que tu es quand même assez récemment directeur général, là, depuis
oui.
juillet 23, je pense.
Oui, tout à fait, depuis juillet, donc c'est relativement récent. Par contre, effectivement, je suis dans le milieu communautaire, en santé mentale particulièrement, depuis maintenant plus de 15 ans.
Okay.
J'ai d'abord commencé, au fait, à l'Arimage, qui est un organisme à but non lucratif en employabilité, donc qui accompagne des personnes ayant eux un trouble de santé sévère et persistant.
Qui existe depuis longtemps, l'Arimage aussi, ça
oui,
fait longtemps.
Tout à fait,
que...
depuis 1976,
ouais.
En effet, tout à fait. Donc j'ai travaillé là pendant 10 ans comme conseiller en emploi, en intégration. J'ai été au fait accolé, si je peux dire, au fait, à l'OIH. Donc, j'ai travaillé de très près, au fait, avec les équipes traitantes du milieu, que ce soit les troubles psychotiques prolongés, que ce soit l'équipe PEP, premier épisode psychotique, les troubles anxieux et de l'humeur, notamment. Donc, j'étais intégré à ces équipes-là. J'accompagnais des personnes pour les réintroduire sur le marché de l'emploi. Donc, avec des mesures d'accommodement la plupart du temps, justement, pour leur permettre de reprendre graduellement la confiance en eux pour pouvoir accomplir des tâches comme n'importe quel autre travailleur, tout
ouais.
à fait.
Et on s'est rendu compte à travers les années comment les organismes communautaires étaient importants dans le rétablissement, en fait, des gens en santé mentale, puis comment ils étaient pas juste complémentaires, je pense qu'ils sont même à l'avant-plan, là. J'imagine que c'est aussi ta façon de voir les choses.
Oui, ben en effet, ben ça on l'oublie souvent. Puis d'ailleurs, c'est un peu le rappel qu'il faut faire parfois avec nos interlocuteurs du CIUS, là, parce que présentement, là, C'est les Suisses avec qui on interagit, mais bien souvent, les initiatives sont parties du communautaire. Donc, il y a eu des expérimentations qui ont été faites sur le terrain. Et lorsque, au fait, on a vu la pertinence, au fait, des approches développées sur le terrain dans le milieu communautaire, à ce moment-là, les équipes, au fait, le CIUS, le ministère de la Santé, au fait, s'est dédié à récupérer ça. Il y a plusieurs exemples à cet effet-là, que ce soit pour les ressources d'hébergement, mais principalement aussi celles que je connais mieux, là, parce que je ne vous ai pas parlé non plus, que j'ai quand même dirigé pendant 4 ans, au fait, le suivi communautaire Le Fil,
ouais.
Où justement c'est du suivi communautaire. C'est une expérimentation qui a été lancée, au fait, à l'origine par la Maison Les Étapes dans les années 70. Où c'était tout simplement, on se rendait compte que lorsqu'une personne vivait une crise psychotique, principalement, ben, elle ne recevait pas forcément tous les soins nécessaires. Donc, il y a eu une première étape où ça a été une ressource d'hébergement pour gérer, au fait, la crise, d'où les centres de crise aussi. Donc, ça a été expérimenté. Mais après ça, une fois que la personne était retournée dans la communauté, là, on observait tout simplement que... c'était bien beau d'avoir stabilisé la crise, mais il faut quand même un soutien, un accompagnement pour ces personnes pour pouvoir... de nouveau gagner en autonomie et puis prévenir, au fait, toute éventuelle rechute. Donc là, se sont mises en place, au fait, les équipes de suivi communautaire. Plusieurs organismes se sont développés par la suite, 7 sur l'île de Montréal, si on s'en tient juste à l'île de Montréal. Et au tournant, au fait, des années 2000, 2000 à peu près, là, le Centre national d'excellence du CIUS a commencé à regarder de plus près cette initiative-là du communautaire. Et ils ont trouvé l'idée excessivement pertinente pour accompagner les personnes. Et ils ont mis en place, au fait, ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui le suivi d'intensité variable dans les équipes, donc les équipes CIV et CIM, suivi d'intensité dans le milieu.
Ouais.
Et que justement, on voit que ces belles initiatives-là, bah, ont permis, au fait, au réseau de se le réapproprier aussi pour obtenir d'autres types de services.
Ouais. Comment tu vois, là, parce qu'il y a eu il y a eu un bon moment où les gens, on avait toujours l'impression que le secteur communautaire était toujours un peu laissé pour compte. Il y a encore des choses à faire pour améliorer les choses, puis le financement, spécialement au niveau des organismes. Mais comment tu vois la situation? Est-ce que c'est quand même mieux? Est-ce qu'on est sur la bonne voie en termes de reconnaissance, autant financière que reconnaissance tout court, là?
Ben, à travers les 15 ans, je pourrais dire qu'on ne peut jamais se baser sur des acquis. Au fait, c'est toujours une lutte perpétuelle parce que les gains qu'on fait aujourd'hui peuvent être perdus 2 ans plus tard.
Okay.
Donc, tu sais, c'est un combat continuel de reconnaissance et surtout qu'il y a des changements. Là, on n'a pas parlé de la PL15, là, la loi qui s'en vient sur le réseau de la santé.
Ouais.
Mais elle va quand même impacter. Il y a quand même une volonté, si on veut, des dirigeants de vouloir tout remonter à la base. Et parallèlement, il y a aussi une volonté de réformer le cadre de financement des organismes communautaires. Il y a des choses intéressantes qui sont sur la table, mais on attend de voir un peu la finalité, parce que dans les faits, c'est toujours plus délicat quand vient, au fait, l'application de ces nouvelles règles. Présentement, le financement, on peut dire qu'il y a eu des indexations. On ne se le cachera pas, on est quand même content, car pendant...
Depuis quelques années, là, assez restées, les récentes années, je pense qu'il y a quand même des améliorations. Mais,
Oui, il y a des améliorations, mais par contre, si on compare, par exemple, avec l'indice à la consommation, on voit qu'il y a quand même un décalage entre l'indexation qui est faite pour les organismes communautaires et, au fait, l'augmentation du coût de la vie. Donc, il y a toujours un décalage assez majeur. Ouais. Il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup interpellé, puis qui m'a, au fait, qui a eu écho aussi, notamment avec mes confrères de Québec. On s'est rendu compte qu'au ministère de la Santé, ils recevaient du fédéral, au fait, une augmentation de 3%, de 3% annuellement, okay. D'indexation.
Ouais.
Parallèlement, bah, pour les organismes communautaires, pour la même période, bah, au fait, on a frôlé les 0,8% d'indexation, les 0,9%, les 1,1%, les 1,2%. Mais c'est vrai qu'au cours des 4 dernières années, on a vu qu'on a atteint le 2,2% quand l'indice à la consommation était bien plus élevé. Là, ce qu'on se rend compte tout simplement, c'est que oui, il y a une amélioration parce qu'on est passé quand même de 0,8% à 2,2%. Puis dernièrement, cette année, on a reçu 3,7%. On peut s'en féliciter.
On est plus aligné avec la...
Oui, mais
l'inflation,
avec l'inflation, mais elle est quand même beaucoup plus élevée que 3,7. Pendant toute cette période-là, ouais. Il y a quand même une dégradation des conditions pour les organismes communautaires.
Et même
parce qu'il y a un appauvrissement.
Mais le financement plancher même n'est pas atteint chez beaucoup d'organismes. Je pense c'est toi qui peux nous le dire, mais je crois que c'est quand même...
En fait, avec le PSOC, le service régional, qui s'occupe au fait de coordonner un petit peu la redistribution des finances, au fait, essaie de travailler sur les seuils planchers. Donc, on a établi que dépendamment, au fait, l'accompagnement et le soutien qu'offre un organisme, dépendamment d'une certaine typologie, je ne reviendrai pas dans les quatre techniques, là, je ne veux pas vous perdre non plus, il y a des montants qui doivent être alloués pour ces organismes-là. Mais ils ne sont pas toujours respectés. Donc, il y a quand même 70% des organismes qui n'atteignent pas ce seuil plancher minimal que reconnaît, au fait, les pouvoirs publics.
Il nous reste à peu près 2 minutes, Marc. Ça passe très vite. Comme ça. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire, comme tu sais, ce qui s'en vient pour le raccord? Ben, tu viens, ça fait pas si longtemps que tu es là, mais comment tu vois l'avenir, les prochaines années, puis sous ta direction?
Ben pour l'instant, je vous dirais qu'on est quand même dans une démarche de chantier. Là, la première année, on la considère davantage comme un chantier. Donc là, l'objectif premier, là, il y a à peu près 4 axes dans ce chantier-là. Là. Le premier axe, le plus important, c'est celui de faire le lien avec la communauté. Donc effectivement, de regrouper le plus possible tous nos membres, de les amener à collaborer ensemble et du moins à se réseauter le plus possible. Parce que c'est à travers, au fait, nos relations qu'on va être capable de définir, au fait, de nouvelles... Ben, de nouveaux services pour des besoins qui évoluent constamment. Ensuite de ça, ben, tu sais, il y a tout le travail de la représentation. Donc, effectivement, tu sais, représenter les organismes au mieux, défendre leurs intérêts auprès des bailleurs de fonds, notamment. Ensuite de ça, ben, effectivement, il y a le soutien plus spécifique. Là, on n'a pas eu l'occasion de parler, c'est dommage, mais on s'en allait vers la paupérisation quand même des organismes communautaires, là. Quand on sait quand même que, les loyers augmentent à une vitesse folle et que le salaire des travailleurs ne suivent pas, il y a quand même une question importante à se poser.
Il y a un appauvrissement,
d'une certaine façon. Donc, les propres travailleurs n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins. Ils doivent aider des populations aussi vulnérables. Mm-hmm. Donc là, il y a quand même des questions et des enjeux. Puis ensuite, il y a tout un volet aussi sur la promotion et la déstigmatisation. Donc, il y a eu une exposition qui a été faite. D'ailleurs, ma collègue Farah, que je salue, est venue faire une présentation il y a quelques temps en arrière.
On l'a reçu, effectivement.
Une exposition avec Julien Cadena.
Le projet photographique. Il reste quelques secondes. On va éventuellement y revenir, puis on te réinvitera. Mais comment on peut en savoir plus sur tout ce que vous faites au raccord? Puis j'imagine on cherche le site web, parce que c'est la porte d'entrée.
Alors, le site web, oui, ben là, je vous dirais que faites pas trop attention, là, il faut qu'on le refasse, il date de quelques années, mais manque de financement, on n'a pas pu s'investir là-dessus.
Mais l'information est quand même là.
L'information est là. Alors, c'est raccordsm.org. Sinon, vous pouvez toujours nous contacter au 514-847-0787.
Est-ce que tu peux répéter le téléphone?
Oui, évidemment, c'est très long. 514-847-0787.
Merci beaucoup, Marc Lopez, et puis bonne continuation, bonne chance dans tes nouvelles fonctions, relativement nouvelles. Alors, on va certainement avoir l'occasion de se reparler.
Ben, merci beaucoup, Yvon.
Merci, à la prochaine.
À la prochaine.
J'ai pris mon vieux truck, je suis parti voir Québec. Sans me demander si toi t'étais correct. Ma guitare, elle était désaccordée. Mais je t'ai quand même chanté un petit bout de moi.
Yeah, hey yo, la vie c'est en site, moi un peu amoché. J'prends un petit temps sur le road trip pour un petit bout de moi. Ma réalité de bad, moi comme petit en face. J'suis pas trop fier quand j'me regarde en glace. Excuse-moi, j'suis parti me perdre sa route. Vraiment tout ce temps, site me crie sa boule. J'suis pas du monde, j'n'arrache, la réalité j'la cache. Mon cœur est d'un stage, perdu tous mes ports d'attaque. Y'a plus qu'à pas prendre soin de toi, j'prends un break de moins. I wanna change my life, trouver le bon gars que j'étais. On améliore toujours sa vie, en même temps que son cœur. J'ai plus le moral pis j'veux demander pardon, Seigneur. Vive avec moi un peu, c'est juste le calvaire. Faut que j'me rende à l'évidence qu'il faut que j'arrête de boire. Sur une terrasse dans le vieux Québec, tu seul à soir, je me parle dans le casque parce que j'ai juste hâte de te revoir.
J'ai pris mon vieux truck, j'suis parti vers Québec. Sans me demander si toi t'étais correct. Ma guitare, elle était désaccordée. Mais j't'ai quand même chanté un petit bout de moi.
Check, hey yo, j'me demande si un jour pour me pardonner, je veux plus passer ma vie à être dans le street all day. I'll not be looking at the stars all night. Je veux me mettre un sourire d'en face au lieu de mon crise d'herbite. J'ai peur de dire some things we both know. Petite vie de misère, pis le week-end j'pense à go. Comment faire pour mettre mes problems away? J'rush pis j'combat le bonheur dans ma vie everyday. Ce temps-là, fade comme une bière flat. J'passe-tu à côté de quoi? Est-ce que ma vie j'la rate? Je veux venir le boys qui feel alright. Je veux aussi mettre un peu de plomb dans la tête. Fini de traîner avec les boys au parc La Fontaine. Je veux plus ma petite vie de chienne où je suis plus le même. Sans me rendre compte, je cours après les problèmes. Je suis parti surtout pour pas te montrer ma peine.
J'ai pris mon vieux truck, je suis parti vers Québec. sans me demander si toi t'étais correct. Ma guitare, elle était désaccordée, mais j't'ai quand même chanté un petit bout de moi. J'suis passé loin de toi sans ton sourire, sans te demander si toi t'étais correct. Ma guitare, j'ai pris mon vieux truck, j'suis parti vers Québec. Sans me demander si toi t'étais correct. Ma guitare, elle était désaccordée, mais j't'ai quand même chanté un petit bout de moi.
Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir.
C'est maintenant le moment du segment Espresso. Alors, bonjour Pierre.
Salut Yvan.
Aujourd'hui, ton sujet, la dépression postpartum au masculin.
Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est quelque chose que j'ignorais, au fond.
On apprend toujours des choses, finalement, en santé mentale particulièrement.
Oui,
là,
oui.
Ça évolue toujours. Hein.
Oui, c'est vrai. Alors, j'ai pris ça, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet. C'est sur le site moiparent.ca. Et c'est un article qui s'intitule « D'homme à père ». La dépression postpartum au masculin. C'est écrit par un monsieur du nom de Charles Le Houlier, qui est sexologue et intervenant. Alors, ce monsieur Houlier nous dit « Ne dit-on pas qu'il n'y a rien de plus beau que l'arrivée d'un enfant? C'est ce que la majorité d'entre nous croyons, et c'est bien vrai que la naissance apporte son lot de joie et de bonheur. Mais avec l'arrivée de bébé, certains changements environnementaux et intérieurs vont se produire. » Cette nouvelle vie apporte des modifications dans notre routine, dans notre couple et même dans nos liens avec nos propres parents. Cependant, les plus grands changements sont souvent internes et difficiles à percevoir. La dépression postpartum, qu'on appelle aussi simplement DPP, pourrait découler de ces changements internes. Les nouveaux parents qui ont eu une prise en charge médicale durant toute la grossesse se retrouvent, une fois l'enfant au monde, laissés beaucoup plus à eux-mêmes, évidemment, tant que l'enfant n'est pas malade. De plus, les parents sont aussi délaissés par l'entourage qui porte son attention beaucoup plus au bébé. En moyenne, 13,4% des parents auraient une prévalence à faire des dépressions postnatales. Certaines ressources sont déjà en place pour soutenir la mère dans cette étape difficile. Cependant, il est plus rare d'entendre que le père puisse vivre un épisode de DPP.
D'où l'importance de, on le sait déjà, mais la grand-mère, le grand-père, ouais, l'autre grand-mère, des fois, ça aide beaucoup les parents de prendre une pause, un recul.
Hein. Ouais,
autant le père que la mère là, de
ouais,
l'enfant.
Ouais. La dépression PP est reliée au trouble dépressif comme une spécificité de ce trouble. Ce serait la naissance de l'enfant qui déclencherait ce trouble dépressif spécifique. En soi, la DPP chez la mère se caractérise par une aggravation des symptômes dépressifs le soir, des difficultés d'endormissement, de l'instabilité émotionnelle, etc. Les symptômes de la dépression postpartum auxquels il faudrait apporter plus d'attention chez les nouveaux pères sont le retrait social, le surinvestissement professionnel, le déni de leurs émotions, la rigidité de leurs propos, la colère et l'impulsivité, les changements de la libido, les difficultés de concentration, de sommeil et de gestion du poids. Selon une étude, 4,8% des pères répondraient aux critères de troubles dépressifs pendant la grossesse, mais également pendant les 3 mois suivant la naissance de l'enfant.
On n'en parle pas tant que ça, finalement.
Non.
C'est, comme on disait tantôt, c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment entendu oui, parler ni l'un ni l'autre. Là.
C'est vrai, oui. Ce pourcentage de DPP chez les pères a tendance à augmenter durant les 12 mois suivant la naissance de l'enfant, passant de 4,8% à 23,8%. De plus, si la mère reçoit un diagnostic de dépression postpartum, le pourcentage que le père ressente lui aussi des symptômes de DPP dans les 12 premiers mois passe de 23,8% à 50%. Quelles sont les causes de cette forme de dépression chez les nouveaux pères? Comme le père n'a pas porté l'enfant, l'attachement envers ce petit être peut venir plus lentement. L'homme doit passer par un processus d'adoption pour apprendre à l'aimer. Adoption entre guillemets, il va s'en dire. Toutefois, c'est souvent lorsque l'enfant vient au monde que l'homme prend conscience de son rôle de père et qu'il doit aussi apprendre à ajuster sa réalité à celle de l'enfant tout en faisant le deuil partiel de son mode de vie passé. Pour mieux comprendre ce que les hommes vivent, un groupe de chercheurs a fait une étude qualitative sur les nouveaux pères qui mentionnaient avoir des symptômes de DPP. En recueillant les témoignages des nouveaux pères, ils ont remarqué que 6 thèmes revenaient régulièrement. Voici les sujets les plus souvent mentionnés. Premièrement, le besoin d'éducation sur la dépression postpartum et encore plus sur celle vécue par les hommes. Des participants mentionnent qu'ils ne savaient pas que les hommes pouvaient vivre cela et qu'ils auraient aimé avoir de l'information à ce sujet. Deuxièmement, le besoin d'adhérer aux stéréotypes masculins traditionnels. Dans la société traditionnelle, l'homme est souvent encouragé à ne pas parler de ce qu'il ressent et à endurer quand il vit des moments difficiles. Dans l'étude, plusieurs hommes ont mentionné qu'ils savaient que ce n'était pas la bonne chose à faire, mais par peur d'être jugés, ils préféraient adhérer à la convention sociale. Troisièmement, un autre thème conduisant à la DPP au masculin, la peur d'exprimer ses émotions. Dans l'étude, plusieurs hommes expliquent qu'ils évitent de montrer leurs émotions, surtout à leurs partenaires, pour écarter les inquiétudes et qu'elles le perçoivent comme un être faible. Quatrièmement, autre thème, le sentiment d'être souvent surchargé et dépassé par ce qui leur arrive. Plusieurs hommes se sentent souvent seuls et isolés de la structure périnatale parce que le système médical met beaucoup plus l'accent sur la mère et le nouveau-né. Ils sentent alors qu'ils devraient à leur tour être plus attentifs aux besoins de leur enfant et de leur conjointe. En oubliant de prendre soin d'eux, les hommes peuvent devenir plus confus émotionnellement, ressentir plus d'épuisement et d'impuissance face à leur capacité parentale. Cinquième thème conduisant à la DPP au masculin, des pensées colériques envers leur nouveau-né. Attention, peu de nouveaux pères disent en vouloir à leur enfant. En revanche, certains admettent que l'arrivée du nouveau-né chamboule tellement leur univers qu'ils peuvent ressentir de la colère envers lui.
On va y revenir tout à l'heure, c'est un bon sujet, donc oui. La dépression postpartum au masculin.
La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet.
C'est avec plaisir que nous amorçons cette chronique. Bonjour Catherine de Stassin.
Bonjour Yvon.
Bonjour. Aujourd'hui, le titre de ta chronique, « Vivre avec l'âgisme ». On entend beaucoup parler de ça, faire de l'âgisme ou subir de l'âgisme.
C'est une forme de discrimination, l'âgisme.
Ouais.
Hein, c'est vraiment une manière d'envisager, identifier les personnes selon leur âge, tout simplement. Donc, c'est bien sûr de la discrimination, comme on discriminerait pour le sexe d'une personne, du jugement sur ça ou du jugement sur la couleur de la peau, etc.
Ça s'applique juste pour l'âge avancé, hein, l'âge?
C'est ça, les personnes âgées. Ça concerne les personnes âgées et ça veut dire qu'on va les identifier ou en tout cas les limiter en les identifiant à certaines caractéristiques physiques. C'est-à-dire d'office, physiquement, je vois que la personne est de toute évidence plus âgée par des cheveux blancs ou par une texture de peau, etc. Et on les limite, on va les catégoriser et on va leur donner un traitement comme sur mesure. Mmh. Alors qu'en fait, ce sont des personnes que n'importe quelle personne. Donc vraiment, il faut faire attention. Je ne dis pas maintenant que la personne qui fait de la discrimination envers une personne âgée que c'est quelque chose d'intentionnel. Hein. C'est quelque chose qui relève de la culture. On a été un petit peu endoctriné, on a eu des blagues sur les personnes âgées, on a vu nos parents peut-être ou des gens autour de nous se comporter avec des personnes âgées d'une certaine manière, c'est-à-dire on va parler plus fort, on va peut-être parler plus simplement en utilisant des mots bien détachés comme s'ils étaient tous sourds.
Et alors que les personnes et en plus les personnes âgées d'aujourd'hui sont pas les personnes âgées d'il y a 40 ans.
Non plus.
Mais c'est peut-être remarque. Des gens plus éduqués, peut-être plus cultivés, peut-être plus.
Et quand bien même, une personne, peu importe l'âge, dans le fond, le traitement qu'on lui réserve, c'est un traitement qui est normalement dénué de toute discrimination. C'est-à-dire, on va parler d'une personne à une autre, d'un être humain à un autre. Je parle de l'idéal, évidemment. Mais c'est sûr qu'on va attacher des stéréotypes physiques et cognitifs aussi. Donc, tiens, elle réfléchit plus lentement ou elle a perdu quelque chose d'office. Oh là, c'est le début de la fin parce qu'elle ne trouve plus ses clés ou des choses comme ça. Donc, il faut faire attention à cette discrimination parce que pourquoi ? Pas simplement pour faire joli, mais c'est parce que aussi cela réduit la personne âgée à un stéréotype qu'elle n'est pas. Et aussi, cela renforce un certain isolement. Cela les isole pour, au niveau du travail, tout simplement. Quelqu'un qui... disons des personnes au travail qui s'invitent entre eux, mais ils vont laisser la personne âgée de côté... ça va encore, c'est pas très sympathique, mais
tout un party. Peut-être voilà, la personne est vraiment super intéressante.
Absolument, exactement. Une personne jeune peut être plate comme une personne âgée peut être plate.
C'est des gros préjugés finalement.
Exactement.
Il n'y a pas une personne âgée qui est pareille, comme il n'y a pas un jeune qui est pareil.
Voilà. Et des préjugés très forts, parce que les préjugés négatifs de la vieillesse, c'est la sénilité, la folie, le déclin, un fardeau pour la société, un fardeau pour la famille, etc. Et donc, il faut faire attention à tout cela parce que ça peut baisser aussi l'estime de soi, de personnes âgées, etc. Il faut faire vraiment attention. Mais pour s'amuser un petit peu de ce comportement qu'on peut avoir chacun, sur lequel il faut un peu travailler, on peut jouer un petit jeu, Yvan.
Oui, ben oui, pourquoi pas.
Alors, je vais te poser des petites questions qui vont un petit peu mettre le doigt sur ce qu'on peut faire dans notre quotidien et notre attitude et notre langage envers les personnes âgées, parce que c'est quelque chose qui nous suit depuis des années et c'est des choses qu'on entend dans des blagues partout.
Oui.
Alors, on peut y aller?
Bien sûr.
Alors, je vais te faire... vrai ou faux, est-ce que tu peux faire ça?
Ben oui, on peut faire ça. Et les auditeurs aussi?
Alors, les auditeurs aussi. Est-ce que je tiens une porte ouverte pour une personne âgée?
Oui. Ben oui, comme pour n'importe quelle personne, si on est galant. Et,
Alors là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que si je le fais pour une personne jeune, je peux le faire pour une personne âgée.
Ouais.
Bon, évidemment, une personne âgée qui marche très, très lentement... Et si on est au métro et on sait que la porte se reclaque à cause du vent, ce serait sympa de le tenir.
On serait
tiendrait pour une personne qui serait en situation de handicap et qui n'a pas l'occasion de tenir la porte à
ce moment-là. Quelqu'un qui a des paquets dans les mains.
Exactement.
Peu importe la raison.
C'est de la courtoisie.
Oui, exactement.
Alors, on peut continuer. Hein, ça va un petit peu se corser.
Donc, c'est pas de l'âgisme. On peut tenir la porte à une personne âgée.
On peut, mais si on le fait à personne d'autre et qu'on va le faire juste parce qu'on voit un cheveu gris, là, on peut se poser des questions.
Oui.
Alors, les personnes âgées sont toutes des chialeuses.
Pas vrai, c'est faux.
Alors, tu en connais beaucoup, qui ne sont pas chialeuses?
J'en connais beaucoup de jeunes qui chialent beaucoup aussi.
Ah bon?
Puis certains peuples aussi qui chialent plus que d'autres. Alors,
on en connaît tous.
On en connaît tous, on ne donnera pas de nom.
Voilà, c'est ça. Il y en a, c'est le sport national.
Oui.
Alors... et là, on fait aussi un peu de discrimination, mais c'est de la blague. Hein?
Oh oui.
Allez, est-ce que je dois protéger ma grand-mère ou mon grand-père des mauvaises nouvelles parce que je pense que, tiens, elle va peut-être pas tenir le choc ou elle va peut-être pas...
Non, il faut pas. Ben non, il faut...
Pourquoi tu penses?
Ben écoute, c'est la réalité. Il faut pas infantiliser les gens, là, surtout pas des personnes
pas
âgées.
Pas au sucre, hein?
Ben non, c'est ça. Ils en ont vu d'autres. Là. L'expérience, des fois, on a tendance à oublier ça, mais il y a peut-être des facettes de la vie qui sont moins... T'sais, la santé ou certaines choses qui sont plus dégradées que la... Mais il y a peut-être de l'expérience qui est supérieure à des plus jeunes. Donc,
D'accord, mais c'est ça. Mais on ne les isole pas de la... on les isole pas de notre vie sociale et du coup de nouvelles que nous on a et qu'eux n'auraient pas.
En exemple, tu sais, la pandémie, tout le monde se disait, ben écoute, les... mais c'est peut-être ceux qui se sont mieux, les mieux, sont mieux sortis à cause de l'expérience. T'sais, c'est les gens qui ont vécu des. Différentes choses dans le passé, plus difficiles.
Ils ont peut-être pris, moi, ça durement.
Ils ont
que
eu
les
comme
jeunes...
un genre de. Ils ont eu un recul sur la question.
Peut-être,
que,
c'est intéressant.
Jusqu'à un certain point, il y a des gens qui disaient qu'ils s'en sortent peut-être mieux, justement, parce que à cause de l'expérience.
Il faudra aller vérifier.
Ouais.
Alors, je demande conseil à une personne âgée sous prétexte qu'elle a un point de vue expérimenté sur la chose. Ah, ça c'est
ben oui,
complexe.
C'est oui.
Oui.
On lui demande conseil, oui, si on sait que cette personne-là a une expertise, pourquoi pas?
C'est une expertise juste dans ce qu'on demande, dans le fond, parce qu'une personne plus jeune ou une personne adulte d'âge moyen pourra avoir une expertise et une expérience tout aussi intéressante.
Oui, bon, on lui demanderait aussi.
Voilà, c'est ça. Donc, on ne va pas juste vers une personne âgée pour... Parce que d'office, elle a une bonne expérience. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas d'introspection ou qui ne vont pas retirer non plus le bénéfice de leurs échecs,
ouais,
pas plus que d'autres.
C'est ça, c'est ça.
Donc, il faut faire attention à ne pas généraliser un petit peu, à ne pas appliquer ce stéréotype comme quoi il y a de la sagesse, il y a beaucoup d'expérience, etc. Il faut faire attention. Tout le monde n'est pas sage, dans le fond.
Non.
Parce qu'il est âgé.
Non, c'est vrai.
Allez, encore une autre.
À date, pas pire. À date, ça va bien.
Je fais des blagues sur les personnes âgées, quitte un petit peu à les dévaloriser.
Non, faut pas faire ça. Là. Des blagues, tu sais, mais pas pour les dévaloriser, sûrement pas. On peut faire des blagues en général, mais pas spécialement sur ça.
Comme quelqu'un a dit, on peut rire de tout, mais ça dépend de la manière dont on rit.
Oui, puis ça, je suis plus ou moins d'accord qu'on peut rire de tout. Je pense qu'il y a certains... C'est pas qu'il y a des tabous, mais des fois, il faut user de son jugement.
Exactement,
puis de
on peut faire ça intelligemment, c'est-à-dire qu'on doit faire attention aux sensibilités, ça n'empêche pas que l'humour devient alors un peu plus intelligent. C'est pas de la censure, mais c'est comme une intelligence, parce qu'il va dire, oh, mais je vais aller chercher ce qui fait la différence, ce qui est intéressant là, que ce soit aussi... en handicap ou par exemple la grossophobie, etc., il y a des humoristes enrobés qui se permettent, eux, de faire une blague
sur le
sujet. Voilà, exactement.
Ouais.
Alors, allez, encore une petite. Oh mon Dieu, pour éviter que ma grand-mère se blesse, je vais déconseiller qu'elle fasse quelque chose... qu'elle fasse trop de choses chez elle ou je vais lui dire, fais pas ci, fais pas ça,
non.
J'ai pas envie que tu te blesses, là.
Ben non, faut pas faire ça.
C'est ça.
C'est de l'enfant. On infantilise la personne, clairement, parce que, encore une fois, chaque personne, c'est unique. Là. La personne
en
est
effet.
Peut-être très, très capable de faire plein de choses.
Elle pourra aussi se sentir dévalorisée par ça. Ou se dire, mais dans le fond, elle ne veut même pas que je peigne mon mur non plus.
Ou
la personne est assez grande pour savoir si peindre le mur, ça va lui réussir ou pas.
Si c'est correct selon ses capacités et tout ça. Là.
Voilà. Donc,
en général, à part si quelqu'un est vraiment, pour une raison ou pour une autre, a perdu un peu la notion, là, ça c'est une autre chose, mais une personne qui est relativement en santé...
Quand il y a un diagnostic, etc., c'est encore autre chose. En effet, je pense que là, il y a des mesures
là, faut
adaptées.
Il faut l'aider, en fait. C'est ça, exactement.
Mais une personne âgée de tous les jours, là, il n'y a pas de raison que ça soit ça. On reviendra peut-être sur quelques blagues, mais là, on va passer sur, dans le fond, comment est-ce qu'on va faire pour lutter contre l'âgisme? Parce que c'est bon de constater que cette forme de discrimination, elle existe, elle est bien ancrée en nous. C'est quelque chose qui est assez culturel.
Et c'était là, il y a longtemps, on ne met pas peut-être comme ça, mais je pense depuis longtemps, là, tu sais, les personnes âgées étaient un peu laissées de côté.
Voilà, ben, tout ce qui fait un peu peur, les gens ont besoin d'en rire ou de s'en moquer. Hein.
Mais on n'a pas les mêmes personnes âgées, comme je disais tantôt, tu sais, les baby boomers qui ont vécu plein de choses, ben, ils sont dans cette catégorie-là actuellement. Là.
Oui. Alors, ce qui est important, c'est évidemment de prendre conscience de nos agissements. Hein. Donc, à partir du moment où on va reconnaître qu'on agit comme ça, on peut déjà prendre une certaine distance et agir différemment, être beaucoup plus humain avec les personnes en question.
Ouais.
On pourra s'assurer, chacun à notre niveau, à toutes les sphères de société, au travail, au niveau social, que les personnes âgées soient présentes. pourquoi il n'y a que des jeunes, des adultes, etc. On peut aller chercher des personnes âgées qui s'intéresseraient de participer. On veut plus de personnes âgées à la télévision, en tout cas moi. Ouais, j'en veux plus à la radio. Ouais. J'en veux plus dans les films. Parce qu'autant qu'il y en a dans nos sociétés, dans le fond.
Ouais.
Et donc, ça, chacun s'assurait de ça à notre niveau. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est que dans le temps, on vivait beaucoup plus en grande fratrie avec les générations précédentes, etc. Maintenant, c'est plus le cas. On est isolé. Donc, les jeunes sont plus habitués à fréquenter des personnes âgées. Et même les adultes, on les voit une fois par semaine ou on les voit une fois par mois, ou moins pour certains.
Ouais.
Donc, quand on vient, on les traite un peu peut-être en sucre, etc. Et c'est pas l'idéal parce que c'est alors... C'est pas leur vie à ces personnes.
En vivant proche, c'est ça, ça c'est probablement ça fait tomber des barrières.
Bon, idéalement, essayer de réintégrer ça dans nos sociétés, favoriser ces échanges intergénérationnels, même si c'est pas notre propre famille, parler à ces personnes.
Peut-être qu'on n'aura pas le choix avec la hausse des prix des logements et des maisons. Peut-être qu'on n'aura pas le choix d'avoir des multigénérations.
De revenir à ce modèle, peut-être. Oui. Et j'ai déjà entendu parler d'un programme qui veut que les personnes âgées accueillent des étudiants chez elles.
Oui, c'est vrai, j'ai entendu
Alors,
ça aussi.
Alors, pourquoi pas?
C'est très bien, là, c'est bien pour les deux, en fait. Ça leur donne,
voilà, je crois que ça peut être très chouette pour les deux, en effet. Ouais. Alors, la conclusion de ce sujet, dans le fond, c'est que cette route, elle est quand même assez longue pour lutter contre cette discrimination, parce que selon l'étude de deux psychologues de Harvard, c'est une discrimination qui est très persistante, comparée à celle qui est relative aux ethnies, à couleur de peau ou au sexe. Donc vraiment, l'âgisme, c'est du travail.
Oui, on va mettre des références sur notre site web, comme d'habitude, sur antenne.qc.ca pour ta chronique sur l'âgisme. Merci Catherine Stassin.
Merci Yvon.
Au revoir.
Au revoir.
Tu écris par temps. Sur tous les nuages, pour moi seul qui ai compris, ton unique langage, depuis toi qui m'écris, quand tout l'azur disparaît, toi qui me connais. Toi, mon âme sœur, il y a tes mots gravés sur le ciel en mouvement. Chaque fois se crée en moi des éclaircies, des accalmies. Quand je vois des pieds devant, c'est toi qui m'écris. Les levées, les couchants, c'est toi qui me dis qu'on est toujours ensemble dans notre petit espace des colocataires. Tes mots gravés sur le ciel en mouvement, chaque fois se crée en moi des éclaircies, des accalmies. Il y a tes mots gravés sur le ciel en mouvement, chaque fois se crée en moi des éclaircies.
Vous êtes branché sur Folie Douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
De retour au micro à Folie Douce, alors avec l'espresso allongé, le sujet que tu as débuté plus tôt dans l'émission, la dépression postpartum au masculin, comme on disait tantôt, Pierre, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup entendu parler. On pense pas souvent au père dans ce cas-là, mais dans ce cas, dans le cas de ton sujet, il est question de ça.
Oui, moi, c'est la première fois, en tout cas, que j'entends l'expression même, la dépression postpartum au masculin. Mais c'est vrai que l'arrivée d'un nouveau-né, surtout peut-être, j'imagine, le premier... c'est un facteur de stress aussi pour le père.
Oui, parce que le père, du jour au lendemain, il apprend à être père. Tu peux pas te mettre dans la peau du père tant que tu ne l'es pas. Quand tu le deviens, ben, il y a plein d'affaires à apprendre.
C'est sûr que c'est la mère qui a la plus grande responsabilité puis qui doit porter l'enfant toutes ces longues semaines-là.
Mais tant que l'enfant est dans le ventre de la mère, disons que c'est comme un peu irréel, puis c'est un peu sous contrôle, tu sais, jusqu'à un certain point, mais la vraie game, si on veut, commence quand ils naissent.
Oui, oui.
C'est pas toujours évident pour certains pères, sûrement.
Alors, c'est un article, comme je disais tantôt, que j'ai trouvé sur Internet, qui porte le titre de « D'homme à père, la dépression postpartum au masculin ». C'est écrit par un monsieur du nom de Charles Le Houlier, qui est sexologue et intervenant. Alors, j'étais rendu à parler des thèmes qui conduisent à la dépression postpartum, qu'on appelle tout simplement la DPP. Et le cinquième thème, c'était, on parlait des pensées colériques envers le nouveau-né. Et on dit que le manque d'attention de la conjointe et le fait d'être continuellement sollicité par le bébé risque de susciter des sentiments négatifs qui pourraient amener, dans certains cas, à des gestes de violence envers l'enfant. Et sixièmement, le sixième thème conduisant à la DPP au masculin, c'est le sentiment d'être négligé par tous aussitôt que l'enfant voit le jour. Il est vrai que la naissance d'un enfant attire l'attention de tous. Les ressources du système ainsi que la famille et les amis se concentrent principalement, évidemment, sur la mère et l'enfant. Les nouveaux pères mentionnent se sentir très isolés et être placés comme des figurants dans le processus parental. Afin de diminuer le risque de faire une DPP et d'augmenter l'attachement du père envers son nouveau-né, il est recommandé que le père s'investisse et s'implique dans les démarches avant la naissance, que ce soit en participant aux rencontres médicales, en décorant la chambre, en s'intéressant au choix des accessoires, en participant aux cours prénataux, etc. Plus le père sera en mesure d'inclure le nouveau-né dans sa réalité, plus il va ressentir de l'attachement et l'aimer rapidement. De plus, il est recommandé de parler de sa réalité de futur père et de nouveau père avec son entourage bienveillant ou avec un professionnel de la santé. Prendre des pauses pour soi, faire de l'exercice physique et retrouver ses passions pour de courts moments sont aussi très bénéfiques. Une bonne hygiène de vie dans cette période où la fatigue peut rapidement se faire sentir est essentielle. En conclusion, nous dit M. Le Houlier, finalement, si la tristesse vous envahit, si des émotions négatives prennent le dessus de nos pensées, si le sentiment de s'enfoncer ou de ne plus être capable de s'y retrouver se présente, il est capital de consulter sans tarder. Un professionnel pourra vous aider à revoir rapidement la lumière et retrouver la joie dans cette nouvelle étape de la vie.
Et comme tu disais tantôt, en fait, tu sais, de se reposer, tout ça, puis prendre soin de soi, ça vient de là aussi. Tu sais, si quelqu'un est fatigué, il voit la vie plus sombre que qu'est-ce qu'elle est en réalité. Tu sais, je veux dire, un enfant, c'est beaucoup d'occupation, mais c'est pas tout négatif, au contraire, puis c'est pas tout positif non plus. Mais des fois, c'est la perception. Puis moi, je dirais, tu sais, les gens qui manquent de sommeil, ben essayez d'avoir de l'aide de quelqu'un qui peut vous donner un break, comme on dit. Oui. Tu sais, ça fait une grosse différence pour les gens.
Il y en a qui vont dire que c'est pas toujours si facile que ça de trouver de l'aide. Parce
non, c'est sûr.
Les grands-parents, ben ils habitent ailleurs.
Puis il y en a qui n'ont plus leur parents. Le frère, c'est ça.
Frère ou la sœur, ben ils habitent dans une autre ville, eux aussi. C'est pas toujours facile pour tout le monde, en tout cas.
Et c'est sûr qu'un enfant, si c'est juste un enfant, mais des fois, il faut penser aussi que des fois, il peut avoir plusieurs enfants déjà, puis il y a un autre nouveau-né qui arrive. Fait que là, ça ajoute à la fatigue, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas évident, mais en étant préparé, comme tu le dis, tu sais, les ce que tu nous as lu, dans le fond, ça éveille les gens peut-être à réfléchir et à se préparer à ça, parce qu'on ne peut pas jamais se préparer si on ne l'a pas vécu, mais au moins en sachant que ça peut arriver.
Moi, j'imagine que c'est toujours plus difficile pour le premier enfant, j'imagine en tout cas.
Ça dépend, parce que ça dépend toujours, parce que chaque enfant est différent, tu sais. T'as des enfants, des fois, qui sont, on dit, faciles, tu sais. Ça peut être le premier qui est facile, puis les d'autres sont moins faciles. Ou peut-être c'est l'inverse, tu sais, le premier, ça a été très difficile. Fait que là, tu t'attends au pire, mais finalement, les autres enfants...
Mais ils auront déjà passé par là avec un enfant ou l'autre.
C'est sûr, ça donne l'expérience. Je dis souvent, moi, à mon premier, que c'est comme le cobaye, là, parce que, tu sais, le premier, que, tu découvres les affaires la première fois que tu rentres à l'école, la première fois que tu fais ci, la première fois, tu sais. Fait que tu viens que tu prennes l'expérience, puis ça permet aux autres peut-être de bénéficier de ça. Là. Mais,
oui, puis il y a les parents aussi qui peuvent bénéficier de l'aide à domicile. Moi, aussi. Ma sœur a déjà passé par là, sans trop aller dans les détails, mais elle a déjà eu ce problème-là de postpartum. Et c'était ses premiers enfants, parce que c'était des jumeaux. Ouais. Et elle a eu de l'aide à domicile.
Il y en a de l'aide, c'est sûr, que ce soit par le CLSC, etc. Peux-tu rappeler, Pierre, le nom de l'article pour les gens? Évidemment, on va mettre la référence sur le site web, là, sur notre site web.
Oui, alors l'article s'appelle « D'homme à père ». La dépression postpartum au masculin, et c'est écrit par un monsieur du nom de Charles Le Houlier, qui est sexologue et intervenant. C'est sur le site moiparent.ca.
On va mettre le lien sur notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie douce sous ta chronique, donc la dépression postpartum au masculin. C'est intéressant, c'est bien d'y réfléchir, puis c'est la première fois qu'on parle de ça ici. C'est quelque chose qu'on a souvent parlé au niveau des femmes, des mères, mais le baby blues, qu'on disait, là, mais c'est le postpartum, ça peut se vivre aussi au niveau des pères. Merci beaucoup, Pierre, pour le sujet.
Bienvenue.
You ain't the first one to care for what's hiding inside. Ain't the first to fall to notice you can't have it all. I ain't a cold-hearted man. Won't give you false hopes, but I ain't made of stone. Got limits, I'll get weak if you get too close. Somehow this is what I'm used to, easy as it goes. Smoking on my downtime, sleeping on my own. Keep up with your pace, but I'm growing old. Guess I'm getting tired of. And I've been meaning to tell you what's been on my mind. I'm just scared you're leaving, left alone too many times. Somehow this is what I'm used to, easy as it goes. Smoking on my downtown, sleeping on my own.
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce, on a entendu, bien sûr, plusieurs chansons, comme chaque semaine, Pierre. Ouais. La première, Plein de bisous.
De Louis Hoffman avec Milena Leblanc.
On a entendu Un petit bout de moué.
De Cire pathétique avec Céd Auger.
On a entendu dans la deuxième demi « C'est toi qui m'écris »
de Sylvie Paquette.
Et la chanson à l'instant « Sleeping on my own »
oui, de Geoffroy.
Merci beaucoup pour ce choix musical, Pierre, ainsi que ton travail en régie.
Ben, bienvenue, mon cher.
Et merci aussi pour ton sujet qui est un peu différent, qui nous emmenait ailleurs, la dépression postpartum au masculin. On y reviendra éventuellement.
On sait que ça existe.
On sait que ça existe. Hein, c'est intéressant de s'y intéresser. Notre invité en début d'émission, Marc Lopez, directeur général du Raccord en santé mentale, était des nôtres. Merci d'avoir été là. Notre collaboratrice Catherine Stassin nous a emmené sa chronique « Vivre avec l'âgisme ». C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.